Le chemin des transitions. Denis et.
Bonjour à toutes et à tous. La Clé des Ondes, la radio qui se mouille pour qu'il fasse beau, et Dynamo, l'association qui amène l'eau là où elle n'est pas, vous accompagne sur le chemin des transitions. C'est l'émission qui chaque semaine vous propose de marcher dans les pas d'un guide éclairé vers un monde meilleur. Aujourd'hui, nous croisons encore une fois la route d'Olivier Soria. Docteur en droit, largement spécialisé, entre autres, dans le droit de l'environnement, dont il a fait un cheval de bataille acharné. Et il revient nous présenter une bonne nouvelle qu'il m'a annoncée d'un email lapidaire qui, sur l'instant, m'a quelque peu désarçonné. Super ! Arrêt du Conseil d'État du 8 mars 2024, remettant en cause toute nouvelle création d'éoliennes avec effet rétroactif pour celles qui sont déjà actées, du fait d'une absence d'évaluation environnementale et de non-participation du public à l'élaboration des arrêtés ministériels. Très grande victoire des assauts environnementales. Denis, on peut faire une émission là-dessus ? Ah bon, mais Olivier, mais moi je croyais que les éoliennes c'était de l'énergie verte, que c'était bien pour nous. Oui, un peu, mais... Et puis les décisions n'étaient pas démocratiques. Bon, bah ça, malheureusement, on commence à s'habituer, même si on ne devrait pas. Alors, et pour l'énergie, il nous reste quoi ? Les barrages ? Ah non, c'est pas terrible pour la reproduction des poissons et la biodiversité. Alors, on retourne au feu de bois. Encore non, beaucoup trop d'émanations de carbone. Ouh là là, c'est la cata, on est cerné. Bon, allez, rassurez-vous, Olivier n'est pas venu nous vendre une nouvelle centrale nucléaire, mais plutôt faire le point sur les énergies vertes, et en particulier les éoliennes, et nous inciter à regarder de plus près. Et peut-être aurons-nous le temps de nous concentrer sur une délaissée aux vertes vertus, la géothermie. Quelle énergie ? Tout pour demain, c'est tout de suite avec Olivier Soria.
L'association Dynamo vous accompagne sur le chemin des transitions.
Bonjour Olivier.
Bonjour. Bonjour Denis.
Alors donc, que ce soit l'éolien, le solaire, l'hydraulique, la biomasse, la biogaz, toutes les énergies vertes, c'est-à-dire celles qui sont propres et renouvelables, hein, donc ça exclut le nucléaire, puisqu'il n'est pas renouvelable, et bien finalement, elles ont toutes des inconvénients qu'on a tendance à un peu trop vite oublier. Et la géothermie, c'est juste un peu moins ou c'est carrément pas du tout ?
Oui, alors la géothermie, c'est un petit peu à part. La géothermie, elle n'est pas tellement développée, justement, parce que non seulement elle est très verte, proprement dit, mais pendant très longtemps, elle avait mauvaise presse. Parce que, effectivement, on pompait l'eau dans les nappes et puis on ne les restituait pas. Et donc, on les renvoyait après dans la nature. Donc, effectivement, on pompait de l'eau, qui était souvent de l'eau de nappes profondes. Et donc, c'était un gaspillage des ressources. Mais aujourd'hui, avec les technologies que nous avons aujourd'hui, on renvoie cette eau, etc., dans les profondeurs de la Terre. Et donc, c'est un circuit fermé, donc complètement. Donc aujourd'hui, elle est complètement écologique.
Mais alors, notre souci, notre actualité, c'est plutôt donc les éoliennes et alors les nuisances. Bon, alors moi, j'avoue que de base, je pensais que c'était plutôt favorable, mais non, en fait, il y a plein d'inconvénients qu'on oublie de citer, et finalement...
Alors ça, c'était un petit peu le discours un petit peu politique. C'était notamment le discours de certains écolos qui était de dire, bon, ben moi, les petits oiseaux, donc le vent et le solaire, bien, c'est mieux que le nucléaire. Alors c'est vrai que le nucléaire, bon, le nucléaire, c'est quand même une production énergétique la plus polluante au monde, ça d'accord, mais c'est pas parce que les autres sont moins polluantes qu'elles ne le sont pas. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que sur les éoliennes, justement, les éoliennes, les gens se font des idées sur les éoliennes. Et là, aujourd'hui, on rappelle ce que c'est que des éoliennes, donc ce qu'on va faire. Et donc, cet arrêt du 8 mars 2024 du Conseil d'État va remettre en cause, effectivement, l'existence des nouvelles éoliennes dorénavant, mais aussi celles qui ont déjà été construites, parce que leur nocivité vis-à-vis de l'environnement et des populations, notamment, effectivement, sont très importants. Donc, il y a un impact très important de ces éoliennes sur l'environnement, mais aussi sur les personnes.
Oui, alors, donc, en fait, on pourrait dire le vent est bien, effectivement, une énergie tout à fait verte, parce que propre et renouvelable. Mais bon, effectivement, les machines qui nous permettent de transformer le vent en énergie,
elles le sont beaucoup moins.
Alors, voilà. Les principaux inconvénients, c'est quoi ?
Voilà. Et en fait, compte, ce qu'il faut comprendre, pour vous dire un peu comment on peut se situer au point de vue, si on devait faire une échelle, en fait, vous avez dans l'industrie, vous avez des industries qui sont ou des installations qui sont peu polluantes, et puis il y en a d'autres qui sont très 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 polluantes. Bon, et pour ça, on a en droit français, on a une législation qui s'appelle la législation des installations classées. encore appelées législation des ICPE.
Et ça, c'est une... Alors, parce qu'il y a des législations en France qui existent, il y en a beaucoup, voire même des fois, on les améliore, mais alors que les anciennes ne sont toujours pas appliquées. Est-ce que là, il y a une application un peu sévère, un peu rigoureuse ?
Oui, alors, elle est d'autant plus sévère que peu de gens le savent. On a ce qu'on appelle les inspecteurs des installations classées, qui sont des inspecteurs de droit régalien. C'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir, un pouvoir tel qu'ils ont un pouvoir supérieur à celui du président de la République. C'est-à-dire que ce sont les seuls capables de pouvoir fermer du jour au lendemain n'importe quelle entreprise.
Oui, alors je ne sais pas si Emmanuel Macron aura aimé votre commentaire, cher ami. Mais bon, supérieur au président de la République, attention, ça fait très mal. Bon, donc ces gens-là sont aptes, compétents pour constater les défauts à la législation ICPE, donc qui veut dire... installation
classée pour la protection de l'environnement.
D'accord.
Et en fin de compte, cette législation va distinguer, disons, deux régimes juridiques. Un régime assez cool, qu'on appelle un régime de déclaration, qui sont pour des installations certes dangereuses pour l'environnement et pour, ça s'appelle, les biens et les personnes, mais disons où les techniques sont suffisamment au point, et puis surtout le volume. Les volumes sont relativement restreints, qui fait que s'il devait y avoir un accident, un incendie ou une explosion, eh bien, les conséquences seraient limitées.
Eh bien, écoutez, on va écouter dans le vent ce que nous raconte Bob Dylan et nous, on va consulter ces dossiers pour pas raconter n'importe quoi après à nos auditeurs. C'est parti.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Robert Zimmerman, alias Bob Dylan, Blowing in the Wind.
Environnement, économie, finance, citoyenneté, solidarité, les transitions vers le monde de demain sont multiples. Chaque semaine, notre invité nous accompagne sur son chemin des transitions.
Et Et aujourd'hui, c'est Olivier Soria qui nous accompagne pour déboulonner quelques éoliennes. Alors, on a vu hein, effectivement que même si le vent, lui, effectivement, est une énergie verte à 100% puisqu'elle est propre et renouvelable, les machines qui sont censées transformer le vent en énergie, elles ont quelques inconvénients, à tel point que c'est ce que la législation nous dit, qu'elles sont classées ICPE, donc c'est installation classée pour la protection de l'environnement. Hein, et elles sont dans. Et on a vu qu'il y a deux catégories, soit le régime de la déclaration, soit le régime de la.
D'autorisation.
Et donc là, c'est le cas des éoliennes, ça veut dire qu'elles sont classées comme une centrale nucléaire quasiment.
Alors peut-être pas jusque-là, mais juridiquement, oui. C'est-à-dire oui. qu'elles sont classées comme, par exemple, AZF à Toulouse.
D'accord.
Alors, AZF à Toulouse, c'est Seveso, mais Seveso, c'est une classification européenne.
Par rapport aux produits chimiques, aux pollutions chimiques, non ? Ou en danger
Par rapport aux éoliennes ?
Oui. Non, les Seveso.
Oui, c'est Seveso, c'est principalement l'explosion chimique et ça s'appelle hydrocarbure.
Bon. D'accord. Mais alors, les dangers de l'éolienne, voilà. Quels sont-ils ?
Mais les éoliennes, en fin de compte, elles sont classées lorsqu'elles sont plus de 50 mètres. Elles sont plus de 50 mètres. Donc, la plupart des éoliennes, c'est le cas des éoliennes, la plupart des éoliennes, puisqu'elles montent jusqu'à plus de 100 mètres, sont classées effectivement soumises à autorisation.
Donc, une petite parenthèse, ça veut dire que la plupart des éoliennes, j'allais dire de jardin, donc qui sont installables par un particulier, elles sont juste soumises au régime d'autorisation, c'est
non.
ça ?
Non. Donc, ce que je vais préciser, donc, lorsqu'elles font plus de 50 mètres, elles sont sous régime d'autorisation. Donc après, elles font entre 12 et 50 mètres. C'est un régime de déclaration, sauf si la production dépasse 20 MW par an. Et en dessous de 12 mètres, c'est-à-dire ce qu'on appelle les éoliennes de particuliers, par exemple, eh bien, il y a simplement une petite évaluation environnementale, notamment vis-à-vis des voisins et vis-à-vis notamment du bruit.
Donc, d'accord. Voilà. Donc, la principale nuisance, c'est le bruit ?
Alors, c'est vrai que c'est une grande nuisance, mais... Bon, c'est peut-être la plus connue. Donc, c'est notamment le cas de l'arrêt du 8 mars se fait sur cette nuisance du bruit. Mais il y en a bien d'autres. Donc, nous avons. Faut savoir que des éoliennes, au niveau de, on a comme c'est soumis à autorisation, ça veut dire que ce sont des entreprises les plus dangereuses en France. C'est-à-dire qu'automatiquement, elles sont tenues par des études d'impact et des études de danger. Alors, les études d'impact, c'est quoi les études d'impact ? Et d'impact, quel est l'impact de l'éolienne sur l'environnement ? Premièrement, c'est que ça perturbe tous les radars, donc notamment les radars d'aéroport, les radars effectivement des bateaux. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, que si dans le Médoc, nous n'avons pas eu des éoliennes, c'est parce que ça perturbait donc les bateaux qui remontaient donc la Gironde, les radars des bateaux et puis en même temps aussi l'aéroport. Bon, mais en même temps, ça perturbe aussi tout le milieu s'appelle le
naturel,
faune et flore, c'est-à-dire une grosse mortalité vis-à-vis par exemple des chauves-souris qui se dirigent qu'avec des radars. Vous avez énormément d'oiseaux qui périssent à cause des pales, donc des éoliennes. Et donc, nous avons une mortalité très importante, sans compter au niveau des plantes, donc difficulté pour les plantes, ça s'appelle à pousser, et tout ce qui est micro-organique, qui va permettre, par exemple, de filtrer l'eau, etc., ont du mal à se développer en présence d'éoliennes.
Donc, mais alors, le développement à terre, au sol, de plantes, par exemple, ça vient de la perturbation de la production d'énergie par le vol, par
oui,
le vent,
ça, c'est-à-dire
ou c'est l'implantation qui perturbe ?
Eh bien, c'est-à-dire que les ondes qui sont envoyées, ce sont des ondes magnétiques, et donc automatiquement, elles vont avoir un impact sur, si par exemple, il y a une exploitation de blé ou de maïs, bon, ce n'est pas le cas en général, mais si c'était le cas, effectivement, sur cette période-là, sur cet endroit-là, on va avoir effectivement une croissance qui sera moins importante. Bon, et notamment vis-à-vis de l'eau, par exemple, pour une veine de l'eau, ça perturbe aussi, le ruissellement de l'eau, etc., les remontées de l'eau, etc., vis-à-vis des micro-organismes. Donc, on a un impact qui est extrêmement important.
Est-ce qu'on peut comparer ça, par exemple, à ce qui se passe sous les lignes haute tension, des choses comme ça ? C'est un peu du même registre
ouais, ou... C'est à peu près le même registre, sauf que c'est bien plus important que les lignes haute tension, puisqu'effectivement, comme je l'ai dit, ça perturbe même les radars des aéroports. Donc, c'est beaucoup plus important. Et la mortalité est beaucoup plus importante vis-à-vis donc, de la faune, principalement, et puis aussi, de temps en temps, de la flore. Donc, on avait ça, un premier élément d'impact. Deuxième élément d'impact, eh bien, ce sont effectivement la constitution même des pales. Il faut savoir que les pales, donc, notamment pour des éoliennes de plus de 50 mètres, ce sont des pales qui doivent résister au vent. Ils sont relativement souples. Et donc, ce sont des pales en carbone-carbone. Donc, pour vous imaginer, j'ai un kilo de ce s'appelle le carbone-carbone, c'est à peu près 10 mètres cubes d'eau qu'il faut polluer.
Pour un kilo.
Une pale, c'est à peu près 100 000 mètres cubes d'eau qu'il faut pour constituer une pale simplement. Donc, quand il y en a trois, ça fait 300 000 mètres cubes d'eau, rien que pour une éolienne, à consommer en termes d'eau.
D'accord, ça c'est le coût, l'impact de la fabrication des pales.
Voilà. Et après là-dessus, on a d'autres, comment on appelle ça, d'autres impacts. Nous avons notamment ce qui concerne l'huile. Donc vous avez une huile qui est sous pression, permettant effectivement de faire fonctionner les lits. Cette huile, elle se répand aussi tout autour du mât. Donc vient polluer là-dessus, elle est inflammable là-dessus. Donc risque d'incendie, risque d'explosion. D'ailleurs, notamment, on a eu quelques éoliennes qui ont explosé. Donc, qui rappelle le cas de l'étude de danger là-dessus. Et puis après, on a ce qu'on appelle les éoliennes qu'on pourrait penser plus écolo, parce qu'elles sont moins peut-être perturbatrices, parce qu'elles sont offshore, c'est-à-dire offshore dans les mers. Mais il faut savoir que ces grands parcs, notamment ce qui s'est fait en face de Saint-Nazaire, dans Nantes, eh bien, comme elles sont en pleine mer, eh bien, ils nécessitent que la maintenance soit limitée. Et donc, on va renchérir les systèmes d'électricité et d'informatique pour pouvoir éviter que ça tombe en panne. Donc, une éolienne qui est en mer, c'est 80 kg de terre rare. Alors, 80 kg de terre rare, pour produire de la terre rare, on ne peut le faire qu'avec de l'isotope 232 radioactif. Donc, ça se passe uniquement en Chine et en Corée du Sud. Vous avez, par exemple, en Chine, une des zones qu'on récupère cette terre rare, qui est aussi grand qu'un département de la Gironde, entièrement radioactif, avec plus un seul arbre, plus une seule herbe, et qui, à peu près, la pollution radioactive est équivalente à 10 fois Tchernobyl.
Mais ça concerne que les éoliennes en mer, ça concerne ces terres rares, ça concerne pas les éoliennes à terre.
Alors si, un petit peu, mais disons que par exemple sur les éoliennes en terre, il y a à peu près entre 5 et 6 kilos. Sur les éoliennes en mer, c'est 80 kilos.
D'accord. Et alors on peut s'attarder un tout petit poil sur ces terres rares là. C'est le mode d'extraction qui fait que c'est polluant. C'est les terres qui sont. Qu'est-ce qui se passe exactement?
Et ben en fait, ce sont des métaux très rares qu'on appelle. C'est pour ça qu'on les appelle les terres rares. Ce sont des métaux rares et donc qui ne peuvent être récupérés qu'en envoyant un isotope, c'est-à-dire radioactif, qui va les faire servir d'aimant quelque part et qui va les extraire de la terre.
Donc, c'est un mode d'extraction qui est extrêmement polluant.
Ah, complètement radioactif. Donc, pour vous dire, c'est 10 fois Tchernobyl.
10 fois Tchernobyl.
En termes de radioactivité.
D'accord. Et donc les populations qui sont autour de ces...
Il n'y en a pas. Tout simplement, il n'y en a pas. Donc, pourquoi ça se fait principalement en Chine? C'est pour ça que la Chine a un poids très important dans les terres rares, et notamment la Corée du Nord, parce que ce sont des dictatures. Donc, les Américains avaient essayé de faire aussi, pour rendre plus indépendant au niveau des États-Unis, mais la population, on ne peut pas... Dans les pays occidentaux, les populations ne peuvent pas admettre que des régions soient entièrement radioactives. Ce n'est pas possible.
Oui, on veut bien de la radioactivité chez le voisin, mais pas chez nous.
Exactement.
C'est toujours pareil. Exactement. Bon, alors donc ça c'est l'impact des éoliennes offshore, et ça a un impact direct aussi sur la vie marine ou pas?
Oui, alors effectivement, on s'est aperçu, c'est que depuis qu'elles sont installées, mais sans s'en douter, qu'elles sont posées sur des casiers de reproduction du poisson et des crabes. Donc, ça vient perturber la reproduction des poissons. Donc, et puis, il y a une pollution en mer qui est relativement importante parce que l'huile s'écoule directement dans la mer. Donc, on a une pollution, certes, pas énorme, mais quand même une pollution d'huile hydrocarbure qui effectivement existe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a comme impact, donc là-dessus, pour revenir sur l'arrêt du 8 mars, un impact au point de vue donc du bruit. Et le bruit, il faut savoir, c'est que c'est pas simplement anodin. Et donc, nous avons, quand ça a été classé en 2011, lorsque les installations d'éoliennes ont été classées, ont été donc considérées comme des installations classées, on était sur des bruits tolérables de 30 décibels. Donc, il fallait que les premières maisons soient au moins à 500 mètres. Et donc, on était, donc, une éolienne, c'est à peu près 70 à 75 décibels, mais à 500 mètres, il ne fallait pas que ça dépasse 30 décibels. Et 30 décibels, c'est à peu près l'équivalent, bon, comment on appelle ça, d'un chuchotement, lorsque vous chuchotez quelque chose à l'oreille de quelqu'un. Bon. Et le problème, c'est que le gouvernement a souhaité favoriser l'installation d'éoliennes et a remonté, qu'on appelle le seuil de tolérance, à 35 décibels. Alors, pour des profanes, oui, on pourrait concevoir que 5 décibels de plus, ce n'est pas énorme. Mais en fait, la progression, elle est arithmétique, elle est logarithmique. Donc, ça veut dire que lorsque vous prenez 3 décibels de plus, vous multipliez par 2. Donc, 5 décibels multipliés par 3.
Quasiment par 3, oui. Voilà. D'accord.
Et donc ça l'équivalent veut dire que d'une voiture, c'est l'équivalent d'une voiture qui passe.
D'accord. Bon, on va se mettre quelques décibels dans les oreilles avec la complicité de Tom. Et on va encore parler du vent, le vent du changement, espérant qu'il soufflera pour nous. Oh, les bons décibels. The Winds of Change par Scorpion.
Le chemin des transitions. Denis E.
Je vous parlais des bons décibels de Scorpion parce que Olivier Soria, lui, est venu nous parler des mauvais décibels des éoliennes. Effectivement, les éoliennes, hein, énergie verte, mais avec quelques inconvénients, comme on le voit depuis une demi-heure. Et donc, on a vite fait abordé le problème du bruit. Et ça, c'est pas négligeable. Hein.
Oui, c'est fait partie des études d'impact. Dans les études d'impact, effectivement, une des, enfin, des grandes trois études de l'étude d'impact, effectivement, concerne le bruit. Parce que eh bien, les habitations sont directement impactées. Et donc, c'est l'arrêt du Conseil d'État où on a effectivement des personnes qui ont venu se plaindre parce qu'il n'y a eu que 5 éoliennes, pas énormément, hein, 5 éoliennes, bon certes, les mâts étaient à plus de 90 mètres, etc., mais qui venaient les empêcher de dormir littéralement. Alors il faut savoir que donc il y a eu 3 arrêtés donc, qui ont été pris par le gouvernement en 2021, 2022 et 2023, qui permettaient, disons, de rélever les seuils de tolérance. Non seulement ils ont passé de 30 à 35 décibels, mais encore pire que ça, c'était que on considérait que pour calculer ce seuil de tolérance, eh bien, on prenait plus en compte les pointes de bruit, mais on faisait une moyenne. Donc, les gens vivaient, par exemple, ben, avec des décibels à 65-70 décibels à côté de chez eux sur une montée. Alors, il faut savoir que ce sont des sons explosifs, c'est-à-dire que ça monte, ça redescend.
Donc, 70 décibels, c'est le voisin qui démarre la tronçonneuse.
Voilà, c'est une tronçonneuse, tout simplement.
Tronçonneuse, d'accord.
Une tronçonneuse. Donc, 65 décibels, c'est une tronçonneuse. Donc, essayez d'imaginer en pleine nuit, vous avez une tronçonneuse qui démarre et puis qui s'éteint. Bon, et ça régulièrement. Donc, ce n'est pas possible. Les gens étaient dans l'impossibilité. Et le préfet, bon, il a fait ce qu'il a pu. Il a dit, bon, ben, écoutez, on va essayer dans un premier temps de limiter la nuit, d'empêcher la nuit. Puis bon, ça a duré 5 mois, puis c'est reparti. Bon. Et là, les gens ont bien compris qu'ils ne pouvaient plus vivre. Et donc, ils ont porté, s'appelle l'affaire au Conseil d'État. Et là, le Conseil d'État a dit, mais monsieur le ministre, vous avez pris des arrêtés. Mais donc, d'accord, qui viennent, s'appellent autoriser des tolérances, mais quelles sont, sur quelle base vous les avez pris? Quelle base légale vous avez prise à dire, est-ce que vous avez fait une évaluation environnementale? Et évidemment, le ministre n'a pas fait d'évaluation environnementale. Donc, ça prouve bien ce que c'est que le régime Macron. Le régime Macron, c'est un peu ce style-là. C'est-à-dire, on prend des choses pour satisfaire les grands trusts, parce que je vous rappelle que, quand même, c'est le trust de Muniez hein, qui est concerné dans cet arrêt du Conseil d'État. Et donc, c'est toujours pour favoriser les milliardaires, etc. Et donc, pas de base légale. Donc, il a rappelé qu'il n'y avait pas de base légale. Et en plus, il n'y avait pas de participation donc, et d'information donc, du public qui est obligatoire. Qui est lié par la charte de l'environnement qui fait partie du bloc de la constitutionnalité et donc qui a fait que le Conseil d'État a dit pas d'évaluation, pas de participation. Donc, vos 3 arrêtés, donc 2021, 2022, 2023, sont annulés. Donc, aucune aujourd'hui, plus aucune s'appelle éolienne ne peut être construite tant que cet arrêté n'a pas été modifié, tant que les évaluations n'ont pas été faites, mais même celles qui ont été construites. Qui ont été construits sous l'ancien régime, sous le régime de 35 décibels, sont remis en cause. Donc, la possibilité de dire, eh bien, on peut les fermer aujourd'hui.
D'accord. Donc, pour résumer, parce que, Olivier, on est tout près de la fin, et merci de cette participation si active et si documentée. Les éoliennes, bon, alors, pas si mal, mais il y a encore plein de choses à voir. Notamment, il faudrait quand même, si on pouvait résoudre le problème des émanations d'huile en mer, eh bien, peut-être que le offshore, au moins, là, il n'y aurait pas de voisins qui seraient dérangés. Et pour ce qui est de la géothermie, bah, on a le programme de la prochaine émission, n'est-ce pas, Olivier ?
Exactement. Ouais.
Allez, merci beaucoup. Eh oui, le chemin des transitions, c'est déjà fini. Alors, bien évidemment, c'était Olivier Soria, docteur en droit et porteur d'une dizaine d'autres casquettes, hein, à découvrir bah, sur les liens qui seront sur le site de l'émission. Et notamment, vous aurez l'histoire des éoliennes, des chauffe-fours que Olivier nous a résumé en même pas 2 minutes. Voilà, c'était Le Chemin des Transitions, une émission produite par Dynamo. Dynamo EAU à la fin. C'est l'association qui amène l'eau là où elle n'est pas. Vous nous retrouvez bien sûr sur dynamo.org ou tout simplement sur laclédesondes.fr, le fabuleux site internet de la radio. Merci à Tom, notre virtuose de la table de mixage, à Maxime, notre champion du carnet d'adresse, Xavier, notre grand Manitou, aujourd'hui en vacances, Baptiste, journaliste couteau suisse,
et Léa et Léa, nos nouvelles pépites. Place maintenant à Point Chaud, si l'actualité le justifie, et c'est rare qu'elle ne le fasse pas. Puis Clumadlit, comme son nom l'indique, et après, place à la musique grecque et au jazz. Soyez sympa avec vous, soignez-vous, écoutez La Clé des Ondes.